Alors, donc voilà, je vais vous, ouais, vous présenter le sujet du des huit vents mondains. Voilà, je me suis basée sur le petit livre que Vajragupta a écrit. Donc voilà, c'est un peu, oui, j'ai basé sur les informations dans son bouquin, mais aussi, bien sûr, je l'exprime un peu à ma propre manière. Et donc, les huit vents mondains, ça vient de vraiment du temps du Bouddha, des enseignements du Bouddha, des enseignements les plus anciens. Et le mot technique, le mot en pali, c'est loka dhamma. Loka, ça veut dire monde, ou royaume, mais souvent c'est utilisé pour monde. Et dhamma, ça veut dire, dans ce cas-là, condition. Les choses, c'est, en fait, dhamma, c'est un mot qui veut dire toute chose. Ça a beaucoup, beaucoup de significations. Mais dans ce cas-là, ça veut dire condition. J'ai aussi vu une traduction où c'était préoccupation. Je trouve ça pas mal aussi. Je vais vous dire pourquoi. Donc, le parti monde, loka, monde, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on trouve partout dans le monde, qui sont associées au monde. Comme les vents, en fait, qui soufflent partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Tant qu'on est dans le monde, on va rencontrer ces dhammas, ces conditions, ces vents. Ça peut aussi, le mot monde, ça évoque aussi le fait que ce soit les influences du monde, dans lequel nous vivons. Donc, pas juste le monde physique, mais le monde social dans lequel nous vivons. La pression des normes, des attentes, des attitudes, des croyances, dans lesquelles nous baignons en fait, en quelque sorte. Et donc, dhamma, oui, c'est traduit par condition, c'est traduit par phénomène, c'est traduit par, par préoccupation. Mais aussi, c'est traduit par vent, parce que c'est une image, c'est l'image du vent. Ça va souffler de nord au sud, du sud au nord, de l'est vers l'ouest et l'ouest vers l'est. Donc ça peut souffler dans toutes les directions. Et en fait, j'aime bien parce que ça bouge les choses, ça nous ballotte les vents. Et j'aime bien cette idée de l'image de la mer qu'ils ont choisie parce que c'est surtout sur la mer et surtout en bateau où on sent vraiment la force des vents. Donc ça évoque quelque chose vraiment, quelque chose de fort, quelque chose qui est en dehors de notre contrôle, qui vient nous balloter, nous pousser, nous souffler d'abord dans un sens et puis dans un autre et puis dans un tourbillon. Donc il y a cette idée que voilà, nous pouvons pas le contrôler. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser pour naviguer. Si on sait faire le bateau, on sait utiliser le vent justement pour se déplacer et pour aller dans le sens où on veut aller. Et le mot préoccupation, j'aime bien aussi parce qu'en fait, les lokadhamma, les vents mondains, ce sont des choses. D'abord, ce sont des choses qui nous arrivent, des expériences qui nous arrivent, des choses qui nous ballottent, Mais c'est aussi, ça devient souvent les choses qui nous préoccupent. Et vous verrez un petit peu pourquoi ça devient une préoccupation. Donc, je vais maintenant vous évoquer les huit. En fait, je ne vais pas les évoquer dans l'ordre où j'ai mis dans l'ordre classique dans le petit bouquin, mais je vais évoquer dans un autre ordre parce qu'en fait, en réfléchissant, je trouvais que le premier, ils sont en couple de par quatre paires. Donc le premier dont je vais parler, c'est le plaisir et la douleur, aussi parfois traduit comme bonheur et malheur. J'ai choisi ça parce qu'en fait, pour moi, c'est la base. C'est celui-là qu'on trouve partout, partout, partout. C'est notre motivation de base. On cherche le plaisir et on cherche à éviter la douleur. On cherche le bonheur, on cherche à éviter le malheur. Donc, c'est les grandes douleurs et les plaisirs exquis qu'on peut vivre notre vie. C'est les douleurs physiques, les plaisirs des sens, mais aussi toutes les douleurs et plaisirs mentaux, émotionnels. C'est aussi, ça va jusqu'aux toutes les petites irritations et les petits bonheurs qu'on peut avoir au cours de la journée. En fait, c'est là où on voit, en fait, c'est les petites brises omniprésentes. On est toujours soit tenté par un plaisir, soit repoussé par une douleur ou quelque chose qu'on n'aime pas. Oui, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous n'aimons pas. Et voilà. Et donc, et je vois encore le potentiel pour tomber dans la tendance à penser « Ah mince, l'événement mondain, c'est quelque chose de mauvais qu'il faut arrêter, qu'il faut éviter, qu'il faut contrôler, qu'il faut... » Et non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui nous arrive. On va pas arrêter d'avoir le plaisir ni avoir la douleur. Donc, la retraite n'est pas une question de... aiguisez votre pratique pour ne plus être touché par le plaisir et la douleur. C'est pas possible. On est dans le monde. Donc il y a des vents mondains. Il y a le plaisir, il y a la douleur. Il y a ce qu'on aime, il y a ce qu'on n'aime pas. Donc c'est pas de retrouver une espèce de neutralité où rien ne nous touche plus. Donc ce qui est important avec le plaisir et les douleurs, c'est comment ça affecte notre état d'esprit et comment ça affecte notre comportement. Qu'est-ce que nous faisons pour éviter la douleur et pour chercher le plaisir? Oui, si je prends juste ce matin, si je prends juste mon expérience de ce matin, ben voilà, j'avais mis mon réveil. Et en fait, je me réveille bien avant et je suis là... il y a le plaisir, le contentement d'être réveillé tôt sans avoir besoin d'être réveillé par le réveil, mais aussi l'idée déplaisante d'avoir sorti du lit où je suis bien au chaud et je suis bien confortable. Et en fait, une douleur un peu physique parce que je suis quand même assez fatiguée, je n'ai peut-être pas assez dormi. Et puis je sors du lit et... il y a les petits plaisirs de prendre ma première tisane du matin et de faire un petit peu de tai chi. Et puis, la déception de trouver qu'en fait, il n'y a pas de pain parce qu'on n'avait pas acheté, on a oublié de... et le dilemme, est-ce que je vais en chercher ou est-ce que... voilà. Et puis, en fait, je décide de prendre un café et un croissant en passant à mon ventre. Donc, le plaisir de me poser devant un café. Et ce qui est déplaisant, c'est que la personne à côté de moi fume. Et voilà, vous voyez, ça continue. Les petites... Et ça, c'est même c'est pas les grandes bouffes d'une grosse douleur. C'est juste là. Et là, en fait, dans l'occurrence, il n'y a rien de tous ces plaisirs et c'est tout, qui m'a vraiment poussé ou j'ai pas forcément cherché ou mais il y a des moments quand même où là, je trouve tout d'un coup j'ai dépourvu un exemple. Mais il y a des moments où en fait on fait tout pour avoir un plaisir. On fait vraiment tout pour avoir un plaisir. Ou pour éviter une douleur. Donc on y met beaucoup d'efforts et parfois ça implique les autres. On marche sur les autres pour avoir quelque chose que nous voulons, par exemple. Donc voilà, juste pour évoquer un petit peu, je crois que c'est aussi le plus abordable, le plaisir, la douleur, c'est très simple en fait, le bonheur, le malheur, c'est là, tout le temps, tout le temps. Le deuxième qui est similaire, c'est le gain et la perte. Et là, la différence, je crois que c'est surtout que ça nous ramène à des choses que nous pouvons avoir ou avoir le sens d'avoir. C'est les possessions, les relations, l'argent, le temps, le statut social, tout ce qui peut sembler être à moi, tout ce que je peux gagner, tout ce que je peux perdre de ce qui est à moi ou ce qui m'appartient physiquement ou émotionnellement. Et là aussi, ce qui est important, on va avoir des choses, on va vouloir gagner de l'argent, on va vouloir acheter des choses qui nous sont utiles, on va vouloir éviter de perdre nos possessions et nos relations, bien sûr. Et là aussi, ce qui est important, c'est encore l'état d'esprit et le comportement que ça provoque en nous. Donc l'avidité, pour moi, c'est vraiment plus que le plaisir et la douleur, c'est l'avidité qui entre en jeu là, le désir de posséder, le désir d'avoir les choses. Et la déception, la frustration quand on perd, quand on n'a pas ce qu'on veut. Et en fait, je pense, et moi, ce que je trouve intéressant là, c'est comment ça entre dans nos relations avec les gens. Dès qu'on rencontre quelqu'un, dès qu'on rencontre quelqu'un, par exemple, et c'est surtout dans les commerces, dans la rue, ou dès que quelqu'un, surtout quelqu'un d'inconnu, nous approche, on est en train de se demander qu'est-ce qu'il veut de moi, ou qu'est-ce que je peux avoir de lui, ou qu'est-ce que je peux éviter de perdre, ou qu'est-ce que je peux gagner dans les marchés. Est-ce qu'il va me donner les meilleures pêches ou les plus mauvaises? Est-ce qu'il veut vraiment me donner une livre entière? Est-ce qu'il m'a donné la monnaie? Ah, il m'a donné trop, j'ai profité. On est toujours dans nos relations humaines et dans notre relation avec le monde, dans qu'est-ce que je peux avoir et qu'est-ce que je peux réussir à ne pas perdre? Qu'est-ce que je peux garder pour moi? Donc c'est bien de juste vouloir. En fait, c'est pour moi, c'est le gain et le perte, c'est plus une attitude qu'une expérience. C'est aussi l'expérience. Donc, bien sûr, on va gagner et perdre les choses tout le temps, mais c'est surtout cette attitude qu'on peut avoir. Et puis la troisième couple, c'est la gloire ou la renommée et la diffamation ou la mauvaise réputation. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nous qui vont devenir stars ou avoir notre nom souillé dans les journaux, dans la presse. Mais nous avons quand même notre fierté personnelle. Nous aimons quand même être aimés. Nous aimons être populaires. Nous n'aimons pas être celui qui n'est pas dans le groupe, qui n'est pas accepté, aimé par les autres. Et donc, je crois que il faudrait regarder ça de point de vue. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir l'approbation des autres, pour avoir le bon regard des autres? Est-ce que par exemple, au boulot, tout le monde est en train de rigoler à quelque chose que je trouve vraiment pas drôle, ou avoir une conversation qui me dégoûte, mais est-ce que je m'y mêle quand même parce que je veux être apprécié par les autres, je veux avoir le bon renommée dans les yeux des autres. Moi, ici, au centre, surtout avec quand on faisait des cours de débutants où c'était complètement ouvert, les gens venaient sans s'engager, c'était fascinant de regarder mon regard sur moi, monter et descendre selon l'attention que je semblais provoquer chez ceux qui venaient. Est-ce qu'ils étaient intéressés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semblait être ennuyé ou qui n'aimait pas ce que je disais? Et c'était vraiment, et surtout au début, quand je commençais à faire l'enseignement, c'était vraiment une pratique. Parce que bien sûr, je veux être le bon enseignant, celui que tout le monde admire, qui fait les choses bien. Et je veux pas que les gens sortent en disant, mais c'était n'importe quoi. Disait là. Mais en fait, voilà, donc on est motivé beaucoup par ça. Et c'est bien de regarder ces motivations. Et qu'est-ce que ça nous fait faire par rapport à nos propres valeurs? Est-ce qu'on se compromet pour avoir l'approbation, le renommée des autres? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter la diffamation ou comment est-ce que nous répondons quand les gens sont critiques de ce que nous faisons en même temps. Et puis un autre père qui est très lié, et c'est difficile, je crois que vous verrez plus tard comment séparer ces deux-là. Pas toujours facile à les séparer, mais je crois que c'est un peu différent quand même. C'est l'éloge ou la louange et le blâme. Et pour moi, là, qui entre là, c'est le sens surtout de culpabilité, de désir de vouloir bien faire, le désir d'être bon. Bon élève, de ne pas être celui qui fait mal, de ne pas avoir le blâme des autres. C'est aussi le désir d'avoir raison. Pour moi, c'est souvent ça, c'est le désir d'avoir raison. C'est le désir d'être, oui, de toujours être du bon côté des choses, de ne pas être blâmable, quoi. Et aussi, ouais, d'avoir l'approbation des autres. C'est la peur de faire du mal, la peur d'avoir tort, la culpabilité. Et en fait, c'est celui-là où on voit, en fait, on est non seulement on est toujours en train de recevoir la louange et le blâme, de voir des ouais. Mais nous sommes aussi beaucoup en train de le donner, le faire aux autres. Donc c'est intéressant à regarder comment nous faisons partie des vents de louange et blâme. Et en fait, il y a un exemple intéressant donné dans le livre de Vajragupta. Il parle d'une femme, membre de l'ordre, qui conduisait une retraite. Et à chaque fois qu'elle entrait dans la salle de méditation, elle saluait très sincèrement le Bouddha en saluant l'autel avec prise de conscience. Et à la fin de la retraite, elle avait deux personnes lui donner des petits mots écrits sur papier. Et elle l'a mis l'un dans chaque poche, et plus tard, elle les a ouverts. Et là, c'était « j'étais vraiment touchée par la façon dont vous avez salué l'hôtel. Ça m'a vraiment inspirée de voir la foi que vous avez dans le Bouddha et dans ce que vous faites. » Et puis elle ouvre l'autre. « J'ai beaucoup aimé la retraite, merci, mais il y a une chose qui m'a vraiment dérangée, c'est le fait qu'à chaque fois que vous entrez dans la pièce, vous saluez l'hôtel, et je trouve vraiment ces journaux de superstition, blablabla. » Et donc, ça montre vraiment qu'on peut avoir deux réactions très différentes pour une seule action de notre part. Et donc, si on essaie de gérer nos actions pour toujours avoir l'approbation et d'éviter le blâme des autres, où est-ce que ça va mener? Mais en fait, on fait ça. On voit vraiment comment on s'adapte. On fait ce qui va nous récolter le plus de louanges et le moins de blâme. Donc, ce sont des choses vraiment très simples, mais très, très omniprésentes. Et donc, on va explorer comment travailler avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est chaque paire, chaque vent, c'est une occasion d'aller plus loin. J'ai dit qu'on peut apprendre à les utiliser pour naviguer. On n'est pas obligé d'être toujours ballotté. Et ce n'est pas une question de naviguer pour toujours avoir le bon vent. c'est ce qu'on fait, en fait, normalement. Mais là, on peut apprendre à les naviguer, finalement, pour aller au-delà de ça. Et Vajragupta a fait un truc que je trouve vraiment super dans son livre. Il a suggéré pour chaque paire une porte de sortie. Je sens un peu d'image marine là, mais c'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, il y a un autre enseignement qui s'appelle les portes du Dharma, qui sont à chaque fois qu'il y a une dualité, il y a une porte qui s'ouvre, une porte de Dharma qui s'ouvre vers quelque chose non-dual, vers quelque chose qui est au-delà des deux polarités. Donc, par exemple, pour le plaisir et la douleur, au lieu de se faire toujours prendre par le plaisir, la douleur, le désir de l'un et le désir d'éviter l'autre, on développe la pleine conscience. À chaque moment, on prend conscience. Donc, on peut très consciemment prendre plaisir. On peut être conscient de la douleur et sans forcément toujours être poussé à repousser ou essayer de saisir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et en fin de compte aussi, on peut aller plus loin, on prend conscience même de la nature de ces choses-là, on prend conscience de la nature de plaisir, la nature de la douleur. Et sont tous les deux impermanents, ça ne dure pas, ni l'un ni l'autre. Donc petit à petit, on ajoute à notre prise de conscience notre connaissance du Dharma, notre connaissance des trois lakshanas, que c'est impermanent. De toute façon, j'ai du plaisir maintenant, mais ça va changer. J'ai de la douleur maintenant, mais ça va cesser. La porte là, c'est d'abord la prise de conscience. Et pour la générosité, pour la gain et la perte, c'est la générosité. Au lieu d'être toujours dans le qu'est-ce que je peux avoir pour le moins, pour donner le moins que ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux donner? Et pas forcément matériellement, juste avoir un esprit généreux qui accepte ce qu'on gagne, qui accepte ce qu'on perd, qui se réjouit que si on perd, ben c'est l'autre qui gagne. Donc un esprit, et surtout de pratiquer, voilà, je vais juste penser à qu'est-ce que je peux donner dans chaque situation, pour essayer de sortir de cette calculation permanente quel est mon compte en fait, est-ce que je vais me faire avoir, est-ce que je suis bien sortie gagnante. Donc voilà, pour le gain et la perte, la générosité. Et aussi là, la réflexion plus sur le Dharma, c'est juste la réflexion que nos actions ont des conséquences. Donc si on est toujours dans l'avidité de vouloir gagner, ça va avoir des conséquences pour notre futur, ça va nous créer de nous quelqu'un qui est avide, qui n'est jamais satisfait, qui est toujours en train d'essayer de gagner plus. Cette réflexion, la générosité, c'est une bonne action, ça va avoir des conséquences positives. C'est une action qui ouvre. Et puis la gloire, la diffamation, la réponse à ça, c'est l'individualité. L'individualité authentique, c'est un enseignement de Sangharakshita qu'il faudrait peut-être explorer ailleurs un autre moment, mais cette idée que de quelqu'un qui est autonome, qui ne dépend pas pour son estime de soi, de la gloire, de l'approbation des autres, qui n'a pas besoin d'être connu, d'être aimé, de faire partie du groupe le plus puissant ou le plus populaire pour vivre sa vie, pour avoir confiance en soi. Donc c'est un développement d'équanimité par rapport aux attitudes des autres vis-à-vis de nous. Et vraiment pouvoir vivre selon nos propres valeurs sans nous compromettre pour avoir l'approbation des autres. Ne pas aller dire ce que les autres veulent que nous disions juste pour rester dans le groupe, pour rester une personne acceptable, mais vraiment être acceptable à nous-mêmes tel que nous sommes, mais vivant selon nos valeurs. Donc une certaine indépendance de ce vent, une intégrité, une individualité qui est indépendante, qui n'a pas besoin de ces vents pour être sûr de lui. Donc oui, et pour moi c'est la partie, une autre partie de ça, c'est la foi, c'est la confiance dans le Dharma, la confiance en fait dans nos valeurs les plus profondes. Et puis le louange, le blâme, et c'est là aussi je trouve intéressant parce qu'on voit un peu plus clairement la différence entre ça et la gloire, la diffamation. C'est la vérité qui ouvre la porte vers autre chose. Parce que souvent ce qui se passe, la louange et le blâme, en fait on tombe dans la vision de l'autre. Donc la personne qui salue l'hôtel, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle pense, est-ce qu'elle prend la réalité de l'autre, de celui qui dit, la superstition, ça veut rien dire, de toute façon, on est occidental, enfin, plus ce genre de choses. Ou est-ce qu'elle prend la vérité de l'autre? Il faut voir où est la vérité dans ça. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Ce sont tous les deux, d'une certaine manière, des points de vue. Et donc, qu'est-ce qui est vrai pour moi s'il y a quelqu'un qui aime quand je fais une chose et quelqu'un d'autre qui me blâme? Qu'est-ce que la vérité pour moi? Et ça nous m'arène. Et donc, si je suis dans la vérité, si quelqu'un me blâme pour quelque chose, je pourrais m'ouvrir au fait qu'il y a peut-être une critique véritable là-dedans, que je devrais écouter. Et si quelqu'un me loue pour quelque chose, pareil, je pourrais me dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je pourrais juste l'accepter et sentir super bien parce qu'on trouve que je suis plus super et blabla. Mais en fait, ça, c'est bien quand même de savoir, est-ce que c'est vrai ça? Et si c'est vrai, on peut vraiment l'accepter et être content de soi sur un pied vraiment plus profond, sur une base plus profonde. Et si ce n'est pas vrai, on peut apprendre quelque chose. Et pareil, si on est à la recherche de la vérité, quand quelqu'un semble nous blâmer, on peut, au lieu de juste réagir et avoir besoin de nous repomper quelque part pour résister à cette attaque, on peut vraiment se demander quelle est la vérité là-dedans. Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre là? Donc on va explorer tout ça dans les réflexions qui suivent. Et je veux juste, pour terminer, comment on fait ça? Alors voilà, j'ai donné le problème et la solution en quelque sorte, mais c'est toujours facile à dire tout ça. On revient, comme d'habitude dans le bouddhisme, on revient à la prise de conscience. La première chose, c'est qu'on commence à connaître ses vents, on commence à voir, oh je suis dans la poursuite du plaisir, ah cette personne est en train de me blâmer. Ah, je sens le désir d'être aimé et d'entrer dans le groupe ou quoi que ce soit. Donc d'abord on prend conscience et on essaie de le nommer, on essaie de dire, de savoir vraiment clairement ce qui se passe. Et aussi de remarquer les effets sur nous, c'est aussi ça. Parce que voilà, oh c'est un petit plaisir et je prends plaisir et après ça c'est fini, c'est pas grave. Ah, c'est un plaisir, j'en veux plus, et comment est-ce que je vais pouvoir avoir plus? Comment est-ce que ça affecte mon comportement à ce moment-là? Donc on commence à avoir conscience des émotions et des comportements que ça provoque chez nous quand ça arrive. Et aussi, il faut commencer à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des choses qui nous arrivent. Les vents, ça nous arrive. Donc on ne va pas tout contrôler, donc il faudrait faire la distinction et puis décider ce qu'on va faire avec ce qu'on ne peut pas contrôler, comment on va gérer ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux contrôler les vents qui peuvent être contrôlés, ne pas nous mettre dans la situation par exemple. Et finalement, donc on commence par les gérer, on commence par les utiliser pour ne plus être ballotté à chaque moment et pour mieux nous naviguer vers quelque chose de plus positif. Et là, je vois plein d'enseignements qui se regroupent. J'ai déjà évoqué les lakshana, la foi. Là, je vois l'esprit réactif, l'esprit créatif, en fait. Le ballottement, se laisser balloter par le vent, c'est l'esprit réactif pour ceux qui connaissent cet enseignement. Et en fait, ce qu'on cherche en connaissant les vents, en prenant conscience, c'est de trouver une réaction, une réponse créative, une réponse qui nous mène vers quelque chose de plus clair, de plus généreux, de plus vrai, de plus libre, de plus individuel. Et en fait, en fin de compte, on va aller même au-delà de tout ça. On va finir par même voir la vacuité de tous ces vents, voir que ce sont que des choses mondaines en fait, que c'est que de l'air. Et pourquoi on se fait tellement balloter? On va commencer à vraiment aller au-delà de tout ça, trouver l'équanimité de l'éveil où il n'y a plus de vent d'une certaine manière. Le vent... ne souffle plus.